Et bonjour à tous. Côté pile, c'est un chef d'entreprise modèle. Michel Hervé prône dans ses livres un management concertatif. Mais côté face, il catégorise les salariés en moutons, en dauphins et en renards. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jacques.
Vous allez nous raconter ce qui se passe dans ce groupe aux méthodes plutôt surprenantes. Et puis nous recevrons Thierry Lévesque. Bonjour également.
Bonjour.
Pour le site Les Jours, vous publiez une série d'enquêtes consacrées au rôle que joue Internet dans la perpétuation du djihadisme. Et vous nous expliquerez qui sont ceux que vous appelez ces nouveaux visages du djihad.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Le management d'autorité, dans lequel on dit c'est moi le chef, ce besoin, si vous voulez, d'avoir un monarque, un chef, engendre des gens qui suivent, ou bien éventuellement des gens qui s'opposent. Le management concertatif est un management où chacun se met en situation de responsabilité et où, ensemble, ils créent la décision.
Voilà, l'homme que vous venez d'entendre s'appelle Michel Hervé, c'est le fondateur du groupe Hervé, une entreprise sans chef, hein, on vient de l'entendre, sans ordre, souvent cité d'ailleurs en exemple dans les médias quand on parle de management innovant. Et pourtant, derrière cette belle image, eh bien, on va voir qu'il existe des méthodes, elles, beaucoup moins séduisantes, que vous allez donc nous décrire, Sylvain Tronchet. Mais d'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, faut expliquer qui est Michel Hervé.
Eh bien, Michel Hervé, c'est quelqu'un qui est assez connu dans le centre de la France, notamment pour avoir fait de la politique. Il a été député européen, maire de Parthenay, dans les Deux-Sèvres, sous l'étiquette du Parti Socialiste. Et il a hérité de son père une entreprise qui est devenue le groupe Hervé, 3000 salariés aujourd'hui, essentiellement dans le secteur de l'énergie, de l'isolation, du bâtiment et un peu dans l'industrie et les services.
Ouais, c'est ce qu'on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire.
Oui, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une société familiale. La famille Hervé en est propriétaire, ce qui lui a valu d'être classée parmi les 500 plus grandes fortunes françaises. Mais ce n'est pas pour cela qu'elle est connue. Le groupe Hervé est souvent cité comme un exemple d'entreprise libérée, comme dans ce reportage de France 3 National en 2018.
En apparence, une entreprise comme les autres. Nous sommes dans les locaux du groupe Hervé, spécialisé dans le chauffage et la climatisation.
Vous savez où est la DRH ?
Ah, ici, il n'y a pas de DRH.
Ah bon ? On cherche la direction financière.
Il n'y en a pas.
Une entreprise sans chef, c'est possible, même avec 3000 salariés. Cela demande une organisation.
Une entreprise sans chef, hein, c'est ce qu'on entend. Ça existe vraiment, ça ?
C'est en tout cas la philosophie de ce mouvement, hein, des entreprises libérées. Celle que professe Michel Hervé à longueur de livres, d'interviews ou de conférences, comme ici, en 2012, face aux étudiants d'une grande école de commerce.
Pour une entreprise, on est naturellement dans une stratégie cohérente. Et la cohérence vient d'en haut. Nous avons des millénaires de stratégies cohérentes où la cohérence vient du haut. Dans notre entreprise, la stratégie vient de la stratégie des gens, individuellement. Ils construisent au fond l'univers qu'ils veulent voir évoluer.
Ouais, chacun décide donc de ce qu'il veut faire. Mais comment ça marche concrètement ?
Eh bien, l'entreprise est divisée en près de 200 équipes de 15-20 personnes qui sont, en théorie, totalement autonomes. Elles ont leur budget, leur stratégie. À la tête de chaque cellule, il y a un manager d'activité qui répond à un manager de territoire. Et au-dessus, c'est le directoire, hein, la famille Hervé. Il n'y a donc que trois niveaux hiérarchiques, comme nous l'explique Thibaut Brière, qui a travaillé dans le groupe Hervé pendant 7 ans, jusqu'en 2018, comme philosophe d'entreprise.
Chaque salarié se voit revêtir lorsqu'il entre dans le groupe d'un nouveau nom, un nom de intra-entrepreneur. Il ne parle pas de salarié, il n'y a pas de subordination. C'est une entreprise qui se veut sans chef, donc sans ordre. Il est interdit de donner officiellement des ordres en interne. Et donc, chaque coéquipier d'une équipe dans un domaine donné a tous les mois une réunion mensuelle au cours de laquelle l'objectif, c'est de prendre des décisions collectives. Et donc, en tout cas sous le versant théorique, les décisions sont prises à la base et la hiérarchie n'est là que pour harmoniser et agréger ces décisions.
Ah oui, donc la hiérarchie n'est là que pour avaliser ce que les salariés ont décidé.
C'est comme cela que c'est présenté depuis des années. Mais en interrogeant des anciens du groupe, je me suis aussi rendu compte que certains d'entre eux en étaient moins persuadés. C'est le cas de Christian Lafont, un ancien cadre licencié en 2014 après 23 ans au sein du groupe. Il a gagné sa procédure au prud'homme et il est aujourd'hui très critique sur le système.
Lorsque nous avions des réunions de cadres, nous avions écrit devant nous en gros « Bonjour patron » avec un S. C'était assez particulier, en effet. Mais ça, moi j'y ai cru, vraiment. C'était un leurre, voilà.
C'était un leurre. Pourquoi c'était un leurre ?
Eh bien, Christian Lafont, comme d'autres anciens du groupe que j'ai interrogés, pense que les décisions sont en fait orientées par la structure et que ces réunions où tout se décide ne sont en fait que des théâtres, comme me l'a raconté un autre ancien manager qui a quitté le groupe récemment. Comme beaucoup, il a demandé à rester anonyme parce que c'est un petit milieu, parce que certains disent craindre que cela ne nuise à leur carrière. Nous avons donc fait lire son témoignage.
Il n'y a aucune liberté d'expression dans l'entreprise en dehors de ces réunions où en réalité personne ne se sent libre de parler parce que tout va être noté et décortiqué. Quand un projet est évoqué par votre manager d'activité, on voit bien tout de suite qu'il y a un consensus qui s'installe. Et si on ne pense pas comme les autres, on va être ciblé et c'est très dur à vivre. Parce que il y a cette ambiance de groupe très forte.
Alors, des témoignages comme celui-ci, hein, j'en ai recueilli plusieurs. Mais il y a aussi beaucoup d'autres salariés qui expriment le contraire, qui adhèrent totalement à ce système. Il y a des avis divergents. Mais on va voir qu'il se passe quand même des choses étranges dans cette entreprise. Une entreprise où, normalement, tout est censé se dire en réunion, comme l'explique Michel Hervé lors d'une conférence.
Chaque unité, chaque équipe doit faire une réunion une fois par mois, dans lequel les gens se disent les choses, c'est-à-dire que les choses se mettent sur la table. Là, on est comme, je dirais presque, dans un camp de nudistes. Hein, c'est-à-dire que tout est transparent.
Tout est transparent, mais ça va jusqu'où cette transparence ?
C'est très poussé. Hein. Par exemple, si vous parlez de quelqu'un dans un mail, vous devez le mettre en copie. On demande aux salariés également de ne pas discuter des problèmes de l'entreprise à la machine à café, mais en réunion, pour que tout le monde soit informé. J'ai lu des comptes rendus de réunion, hein, où un cadre, par exemple, refusait de parler de ses problèmes personnels et où on lui expliquait que ce n'était pas dans la philosophie du groupe, qu'il fallait au contraire tout dire pour qu'on puisse vous aider.
Tout dire, mais tout dire devant tout le monde, hein, si je comprends bien. Donc il n'y a aucune discussion possible en tête-à-tête ?
Non, c'est interdit, mais le patron, Michel Hervé, lui, ne semble pas toujours s'appliquer cette règle. C'est ce que m'a raconté Thibaut Brière, hein, son ancien philosophe d'entreprise. Alors, je précise qu'il a été licencié en 2018. Il est actuellement en procédure au prud'homme parce que, précisément, il avait des divergences avec Michel Hervé, notamment quand son patron lui demandait des remontées confidentielles sur les salariés.
Moi, à l'issue de chacune des formations que j'animais, le président du directoire me demandait très officiellement un mail ou à minima un coup de fil de débrief de cette formation au cours duquel je lui dirais qui avait dit quoi, qui était dans la philosophie d'entreprise, qui n'y était pas, etc. Il avait besoin de toutes ces informations en off pour pouvoir, me dit-il, en faire son miel, c'est-à-dire recouper ces informations avec les autres échos informels qu'il aurait des managers de territoire, de ses responsables fonctionnels, etc., etc.
Et il en fait quoi de toutes ces informations ?
Eh bien, il semble que cela lui serve à établir le profil psychologique de ses salariés. Michel Hervé en parle d'ailleurs parfois lors de ses conférences.
En général, nos groupes à nous, c'est des groupes de 20 personnes, 18 personnes. Sur 18 personnes, vous avez 12 personnes qui sont en anxiété, qui ont peur de faire des erreurs et qui ont besoin d'un chef de file, d'un leader. Vous avez des gens qui, eux, veulent être les meilleurs. Et si c'est pas le manager qui est le chef, à ce moment-là, ils se mettent en situation de contre-pouvoir à l'intérieur du groupe. Et puis, il y a ceux qui ont à la fois l'humilité, qui ont l'empathie, qui ont la capacité de résilience et qui sont entrepreneurs. Et mon problème, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir 3000 entrepreneurs.
Ouais, donc si on le suit, il y aurait dans une équipe trois catégories de salariés.
Oui, mais ça, ce que vous venez d'entendre, c'est la version à usage externe. Dans l'entreprise, ces trois catégories, elles ont des noms. Il y a les moutons, les renards et les dauphins, comme nous l'explique Thibaut Brière.
Le dauphin, dans l'esprit des dirigeants du groupe Hervé, c'est le salarié modèle. Celui qui n'a aucun scrupule à faire son autocritique mensuelle en réunion, qui est capable du coup de ne pas avoir de chef. On a éradiqué en lui la mentalité hiérarchique. Le mouton, c'est le salarié qui a encore besoin d'avoir quelqu'un à admirer et à suivre. Il va être influençable à la fois par les renards, qui peuvent le faire devenir lui-même un renard, mais il peut être également influençable en bien, et donc le manager doit finement parvenir à le mettre plutôt en situation de travail avec des dauphins pour qu'il devienne plutôt un dauphin qu'un renard. Le renard, en revanche, eh bien, c'est le salarié beau parleur, et qui est à ce titre une sorte de contre-pouvoir au manager. C'est celui qui n'accepte pas d'être totalement dans la transparence. Ce qui caractérise avant tout le renard, c'est la ruse, la manipulation.
Ah oui, donc on serait soit un renard, soit un mouton, soit un dauphin. Mais ça sort d'où, cette classification ?
Eh bien, tout droit de l'esprit de Michel Hervé, qui se définit lui-même comme un philosophe contrarié, mais qui s'intéresse aussi à la psychologie. On ne sait pas sur quelle base théorique il fonde cette classification, mais elle est enseignée aux salariés lors de journées de formation. Un ancien manager du groupe m'a raconté comment il en a entendu parler pour la première fois vers 2017. Il a demandé à rester anonyme. Nous avons fait lire son témoignage.
J'ai entendu parler des moutons renards dauphins à la machine à café par des collègues qui revenaient d'une journée d'échange. Michel Hervé était venu leur présenter ça. Ils en rigolaient pas mal. Au début, moi aussi, ça me faisait rire. Ça ressemblait à une blague. Et on trouvait plutôt drôle de devoir se catégoriser en réunion. Mais avec le recul, j'ai réalisé que ce n'était pas anodin. C'était fait pour avoir un groupe parfaitement homogène de gens dociles, obéissants. Mais sur le moment, vous n'avez pas de recul et vous ne comprenez pas ça. Parce que c'est bien vendu et bien enrobé par Michel Hervé.
Ah oui, donc si on l'écoute, ça ne serait pas qu'une classification lancée en l'air comme ça.
Non, c'est une grille d'évaluation qui est utilisée lors de certaines réunions. J'ai pu consulter plusieurs comptes rendus internes qui le confirment, et Thibaut Brière, lui-même, l'a également observé.
J'ai moi-même assisté à des réunions, au cours desquelles Michel Hervé, ou que ce soit son fils Emmanuel Hervé, demandait explicitement à chacun des managers présents, est-ce que toi, Dominique, tu penses que ton collègue Martin est plutôt un renard, à partir de la présentation que je viens de t'en faire, plutôt un renard, un mouton et un dauphin. Parce que nous sommes une équipe dans laquelle la confiance doit régner et la plus grande transparence doit avoir lieu au sein de cette entreprise. Tout le monde accepte de le faire parce que chacun sait que s'il ne le fait pas, eh bien c'est que lui-même devient coupable et lui-même, ça veut dire, ça le désigne comme un renard. Et puis on invite également chaque manager à dire qui dans son équipe serait plutôt un mouton, un renard ou un dauphin.
Et si vous dites qu'un de vos collègues est un renard, par exemple Sylvain Tronchet, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, si on en croit les dirigeants du groupe Hervé que j'ai contactés, ils n'ont pas voulu répondre à une interview, hein, mais ils m'ont écrit. D'après eux, ce système n'existe pas. Ils ont même organisé un comité d'entreprise exceptionnel après avoir reçu mes questions, où ils ont interrogé des salariés qui ont tous dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Mais d'autres témoignages et plusieurs documents internes au groupe que j'ai pu consulter donnent une autre impression. Comme par exemple ce compte-rendu de réunion d'octobre 2017 que nous avons fait lire.
Michel Hervé rappelle que nous devons éduquer nos salariés pour qu'ils aillent vers notre forme d'organisation bien différente de l'éducation que nous avons reçue, ce qui n'est pas toujours facile, d'où la nécessité de devoir faire de la sélection. Il faut donc faire en sorte d'avoir des dauphins dans les équipes et non des renards qui chercheront à se cacher et seront dans le déni. Le jour où elles seront mises en lumière, une fois sur cinq, les personnes se remettent en question, mais dans quatre cas sur cinq, elles doivent sortir du système.
Sortir du système, c'est-à-dire ?
Bien, en clair, hein, il faut que ces renards quittent l'entreprise. Michel et Emmanuel Hervé le disent plus ou moins clairement à plusieurs reprises dans plusieurs réunions. Écoutez, d'ailleurs, ce que disait Michel Hervé lors d'une conférence publique en 2018, où il ne prononçait pas le mot renard, mais où on en retrouve toutes les caractéristiques.
Tout le rôle du manager catalyseur, c'est d'amener le reste de l'équipe à se mettre en situation de dire à celui qui ment, écoute, tu nous la fais plus, quoi. Et quand il y a le sentiment qu'il est démasqué, cette dimension du groupe amène l'individu à se remettre en cause. Alors, quelquefois, il ne veut pas se remettre en cause et à ce moment-là, il s'en va. Hein, il s'en va, il abandonne, si je puis dire.
Mais ça veut dire que l'objectif, c'est de faire en sorte que la pression du groupe, hein, si j'entends bien, puisse faire changer les renards ou les faire partir ?
Oui, ce serait cela. Et dans les faits, Thibaut Brière m'a expliqué concrètement comment cela pouvait se passer.
Dès lors qu'il a identifié que telle ou telle personne était susceptible d'être un renard, le rôle du manager est de mettre en visibilité lors de la réunion mensuelle tous les éléments pour dire « voyez ». Michael ou Abdoul, il vous a dit ou il paraît être ceci et cela. Il ne vous a pas dit même peut-être ceci. En revanche, il est allé dire ceci et cela à un tel. En revanche, il m'a envoyé tel mail la semaine dernière. Je vais d'ailleurs l'afficher en réunion. Et d'ailleurs, voici ce que tel manager m'a répété que Abdoul lui avait dit. Et donc, le rôle du manager va être de discréditer le renard aux yeux de ses collègues de manière à ce qu'il quitte l'entreprise d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il démissionne parce que la vie leur a été rendue impossible, étant discrédité aux yeux de leurs collègues. Soit on les licenciera.
Alors, soyons précis. Personne n'a jamais été licencié dans le groupe Hervé au motif qu'il était un renard. Mais ce qui est sûr, c'est que ces réunions, où l'on se dit tout, hein, les réunions qui sont les lieux où se fait la politique du groupe Hervé, peuvent être très violentes. C'est ce que m'a raconté Christian Lafont, le cadre qu'on entendait tout à l'heure, hein, qui a été licencié en 2014. Il savait qu'il était sur la sellette et voilà comment s'est passée sa dernière réunion dirigée par le fils de Michel Hervé.
Emmanuel Hervé, au début, lorsque je voulais effectivement m'exprimer, il me dit de me taire de manière très formelle et à ce moment-là prend la parole pour me démolir, que je ne suis pas digne d'être un cadre dirigeant cette entreprise et que je suis un manipulateur auprès des employés, à me clouer vraiment au pilori, vraiment. Jusqu'à ce que j'en fasse un malaise. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, quand je l'ai vu avec ce regard cynique et qui prenait à témoin mes collaborateurs, voyez-vous, regardez-le, il est en train de faire de la comédie. Il essaye de me manipuler, de vous manipuler. C'est-à-dire qu'il renversait les rôles. Et j'ai pris la décision de m'en aller, de quitter la réunion. Et je suis rendu directement chez mon médecin. Et lorsque, effectivement, j'ai présenté mon arrêt de travail à mon assistante, je recevais en même temps une convocation qui précédait mon licenciement.
Ouais, ça laisse un peu sans voix, hein, ce qu'on entend là. Mais en même temps, Sylvain, c'est sa version, ça.
Oui, effectivement. Mais cela nous a été confirmé par un témoin et surtout par des comptes rendus de réunion, là encore, où Emmanuel Hervé assume sa position. J'ai aussi interrogé une quinzaine d'anciens salariés qui sont partis de leur propre chef ou ont été licenciés parfois et presque tous m'ont parlé d'une dernière réunion assez brutale. C'est le cas d'un ancien manager qui a quitté l'entreprise assez récemment, qui a souhaité rester anonyme et dont nous avons fait lire le témoignage.
Le jour où j'ai donné ma démission, je me suis fait exécuter en réunion. Plusieurs collègues ont fortement critiqué mon travail. Ils me disaient « De toute façon, tes résultats n'étaient pas à la hauteur ». Alors qu'un mois auparavant, tout le monde louait mon travail. De toute façon, ils font ça pour faire tenir le système. Il faut que tout reste sous contrôle, donc si quelqu'un part, c'est forcément parce qu'il était déviant et pas à la hauteur.
Et dans une certaine mesure, ces méthodes sont théorisées au sein du groupe, comme me l'a expliqué Thibaut Brière.
Ils font l'éloge du conflit en interne. Pour eux, c'est un mal pour un bien. Et donc, se dire les choses en réunion, y compris si c'est violent, y compris s'il y a des personnes qui peuvent s'évanouir, y compris s'il y a des personnes qui peuvent tomber en larmes, quitter la pièce, eh bien pour eux, ça veut dire que la lumière a été faite sur le caractère de tel ou de tel. Ça veut dire que peut-être il n'est pas fait pour la boîte. Ça veut dire que peut-être il n'a pas la carrure d'être un manager Hervé.
Et d'ailleurs, Michel Hervé l'exprime à sa façon lors de ses conférences.
Il faut mettre les conflits sur la table. Il m'arrive de dire « engueulez-vous avec votre femme tous les jours et vous ne divorcerez jamais ».
Ouais, on lui laissera la paternité de cette image. Mais il n'y a pas de contre-pouvoir, Sylvain, de syndicat dans cette entreprise ?
En fait, il n'y a quasiment pas de syndicat. Il y a un seul délégué CFDT et Michel Hervé, dans plusieurs interviews, hein, ne cache pas qu'il pense que les syndicats ne servent à rien dans son entreprise. Voici d'ailleurs ce qu'en a dit son fils lors d'un comité central d'entreprise dont nous avons fait lire le compte-rendu.
Emmanuel Hervé rappelle le rôle des élus du personnel dans notre organisation car il y a une différence de fonctionnement importante par rapport à ce qui se pratique dans d'autres entreprises. Il explique que bien souvent, dans la plupart des entreprises, les délégués se vivent comme le contre-pouvoir du patron. Pour Emmanuel Hervé, le rôle des élus chez nous est clé puisqu'ils doivent veiller à la bonne application de la philosophie et de l'organisation de l'entreprise.
Ah oui, donc pour lui, les élus du personnel sont censés être au service de la direction.
Oui, les dirigeants du groupe Hervé considèrent en gros que, vu que tout est censé être dit en réunion, eh bien, il n'y a pas besoin d'expression syndicale. Pourtant, des salariés ou d'anciens salariés qui se plaignent de leur charge de travail, j'en ai rencontré.
Leur charge de travail, mais quel rapport avec ce qu'on vient de dire ?
Eh bien, parce que comme tout le monde est hyper responsabilisé et que tout le monde fait un peu de tout, ça permet d'économiser sur les services centraux. Mais du coup, la charge de travail individuelle est très lourde, m'a raconté un ancien manager dont nous avons fait lire les propos.
C'est une boîte très formatrice, mais très casse-bonhomme. Quand on est manager d'activité, on gère tout. Les approvisionnements, la facturation, la relance client. On s'éclate au début parce qu'on a plein de responsabilités. Moi, en plus, j'étais animateur RH. Je participais à des groupes de travail. Vous avez une semaine par mois consacrée à toutes ces fonctions et dans le même temps, il faut faire votre job normal. En fait, ça permet à la boîte de faire plein d'économies sur les services généraux. Quand j'y étais, on était déjà 3000 dans le groupe et il y avait en tout et pour tout 5 personnes aux ressources humaines. C'est très lourd. On s'y investit jour et nuit. Moi, ça m'a détruit. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre.
Il a donc lui aussi pris des distances, on l'entend, avec son ancienne entreprise. Et on regrette, hein, on le rappelle, que Michel Hervé n'ait pas répondu aux questions précises que vous lui avez adressées. Bon, mais au final, Sylvain, tout ça, ça donne quand même un portrait de cette entreprise qui est très éloigné de l'image qu'elle veut donner.
Oui, et ça s'inscrit en fait dans un débat qui existe, qui se fait jour aujourd'hui autour de ces nouvelles méthodes de management qui inspirent également de grandes entreprises. La sociologue Danielle Linhart a écrit plusieurs livres sur ces entreprises libérées. Cette directrice de recherche au CNRS ne croit pas, elle, au supplément de liberté qu'en tireraient les salariés. Pour elle, l'abolition de la hiérarchie a été remplacée par une autre forme d'emprise.
Il y a cette idée que si on rompt avec ce prisme antérieur qui était celui de la nécessité d'exercer une emprise sur les salariés à travers des procédures, des protocoles, un encadrement extrêmement important, ben, si on leur fait confiance, on fait beaucoup d'économies et puis ils vont être plus efficaces. Mais l'emprise, elle va s'exercer et elle va s'exercer sous la forme que moi j'analyse en termes de secte. Il faut que les salariés se transforment en followers par rapport à la vision de leur leader. Le leader, c'est eux, le patron. Et on est dans un esprit de secte parce que, comme disent certains patrons, les salariés sont libres. S'ils sont pas d'accord, ils sont libres de prendre la porte. Mais s'ils intériorisent bien, s'ils intègrent bien, eh bien, ils sont libres parce qu'ils vont librement mettre en œuvre la vision de leur leader.
Voilà, d'après Danielle Linhart, dans les entreprises libérées, on serait surtout libre d'appliquer à la lettre la philosophie du patron-leader.
Le management concertatif, donc progrès ou régression, tiens, ça sera un bon sujet de dissertation, pourquoi pas, pour le week-end. Merci donc Sylvain Tronchet pour cette enquête. Alors je précise qu'on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. À suivre dans Secret d'Info, les nouveaux visages du djihad 2.0 ou comment Internet contribue à entretenir l'idéologie islamiste.
cute.
C'est entraînant, c'est léger, c'est une bouffée d'oxygène et ça fait du bien. C'était The Adults Are Talking, le morceau d'ouverture du sixième album du groupe américain The Strokes.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et retour à une réalité plus prosaïque maintenant. L'État islamique est peut-être vaincu en Syrie et en Irak, mais les outils numériques lui permettent toujours d'exister. Bonjour Thierry Lévesque.
Bonjour.
Le site Les Jours a commencé à publier cette semaine une série d'enquêtes qui explore le rôle que joue Internet dans la perpétuation du djihad. Et dans le premier volet de cette série, vous êtes intéressé à un homme qui s'appelle Abdel Kamala. Alors racontez-nous d'abord pour commencer, c'est qui Abdel Kamala ?
Alors Abdel Kamala, c'est un chômeur qui vit chez sa sœur, qui est divorcée, qui a le RSA, il passe ses journées sur son canapé et son lit, enfin il fait pas grand-chose, donc a priori c'est un personnage tout à fait trivial qu'on n'imaginerait pas intéresser l'antiterrorisme. Et puis il s'est avéré que c'était un cadre numérique de l'État islamique en France et qui était le chef en quelque sorte de la propagande absolument débordante de l'organisation sur l'Internet pour la France.
Alors il a été arrêté en 2017, il a été jugé, condamné à 9 ans de prison. Et là on se rend compte de, j'allais dire, l'ampleur de la propagande, ou plutôt de l'organisation de la propagande qui était celle, il y a encore quelques années, de l'État islamique.
C'est ça. Alors c'était il y a quelques années, mais on peut penser que même si leur base arrière de Syrie a été largement démantelée, précisément c'est maintenant leur colonne vertébrale, puisque ça on peut le faire depuis n'importe quel endroit dans le monde.
C'est ce qu'il leur reste en fait.
Voilà, enfin il leur reste encore un petit peu de réduit d'Idlib en Syrie, et puis ils ont essaimé des filiales en Afrique, en Asie, donc militairement ils sont pas non plus par terre complètement, mais surtout maintenant il leur reste ça. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien le renseignement français, à l'occasion de ce dossier notamment, l'a pu le documenter. Quand il y avait encore le califat irako-syrien, il y avait donc une sorte de gouvernement et il y avait une branche médiatique à laquelle les gens comme Abdel Kamala devaient rendre des comptes, faire des rapports d'activité. Vous savez, ça m'a fait penser un peu en voyant ce dossier au film de James Bond, Skyfall, où on voit le spectre, vous savez, cette organisation criminelle qui tient un conseil d'administration. Bon, là, c'est pareil. Il y avait des gens qui étaient...
Je crois que c'est dans le film Spectre, en fait.
Oui,
c'est pas dans Skyfall.
Peut-être, ouais, d'accord. Non, mais bon, il y a une sorte de conseil d'administration et ensuite c'est hiérarchisé, pyramidal. Et donc Abdel Kamala avait des dizaines de chaînes Telegram, vous savez, c'est cette messagerie russe qui, ironiquement, a été créée à l'origine par des dissidents, des gens qui veulent se libérer de la tutelle du régime Poutine. Donc là, c'est utilisé par les djihadistes pour inonder le web de vidéos horrifiques, de combats, d'exécutions, et puis de logorées religieuses, de communiqués, de littérature, et voilà. Et donc, par ce mécanisme...
Il était actif, vous le dites, hein, dans votre enquête, il était actif sur 23 forums de discussion, il inondait Twitter et Facebook de messages, et il naviguait évidemment grâce à ce logiciel Tor qui permet de masquer son identité.
Oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu ironique, parce que comme Telegram justement, Tor a été créé par des libertaires américains, qui essaye de faire en sorte de s'échapper de la tutelle des GAFA, voilà. Donc, en quelque sorte, les djihadistes s'insinuent dans les interstices du web, de la toile, pour mener leur entreprise criminelle. Et donc, il y a les outils. C'est pas la peine d'être un ingénieur d'informatique. Abdel Kamala ne l'était pas, d'ailleurs. Il avait une petite spécialité, mais sans plus. Et il y a des milliers de contenus qui étaient produits chaque mois par une véritable société de production. Enfin, c'est pas des sociétés, mais des unités de production de l'État islamique dans la zone irako-syrienne.
Mais Thierry Lévesque, alors on parle à travers de ce procès, de ce qui s'est passé il y a quelques années. À l'époque, c'est vrai que la branche médiatique de l'État islamique était florissante. On parle de 35 bureaux, d'une quarantaine d'articles, de vidéos produits chaque jour. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas?
On peut penser que, une fois que le proto-État qu'avait créé l'État islamique dans la zone irako-syrienne a été quasiment anéanti, tout ça a été bien sûr affaibli avec le reste. Mais dans le fond, ça existe toujours, hein, puisque ça peut être complètement délocalisé n'importe où dans le monde. Et aujourd'hui, on constate que beaucoup de passages à l'acte, et notamment celui de Samuel Paty, le Tchétchène résident en France qui a assassiné l'enseignant Samuel Paty en octobre, eh ben ça s'est fait sur Internet en fait.
Est-ce qu'on n'est pas passé d'une verticalité, depuis la Syrie, voilà, on diffuse des messages et on vous dit ce qu'il faut faire, à une horizontalité, on a vu Kantzorov, le meurtrier de Samuel Paty par exemple, appeler ses amis à l'aide sur les réseaux sociaux en lui disant, en leur disant « donnez-moi l'adresse de telle personne ». C'est-à-dire
oui,
qu'il y a une espèce de circularité de l'information.
Alors ça, je pense que c'est pas forcément, ça a pas forcément changé par rapport à l'apogée de l'État islamique. C'est-à-dire que c'est la mécanique de ce système. Voyez-vous, ils diffusent, ils inondent en réalité le web, les messageries, les réseaux sociaux de propagande, de consignes, d'appels au meurtre, à l'attentat, etc. Donc quand on est au sommet, bien sûr, ça marche très très fort, mais finalement, même quand on est réduit à pas grand-chose, ou en tout cas à moins, on a toujours cette mécanique. C'est-à-dire, vous allez arriver à des sympathisants, des curieux, et puis, à un moment donné, vous allez tomber sur quelqu'un qui va passer à l'acte, mais qui, le cerveau lavé, en quelque sorte, par cette mécanique, va exécuter, même s'il n'en a pas eu l'ordre direct depuis la Syrie, puisqu'on n'a pas la preuve en l'espèce dans l'affaire Paty, mais voyez, un petit peu activé par cette mécanique. Et c'est ça la moitié du combat dont parlent les djihadistes. Et je pense que peut-être la riposte occidentale, mais aussi bien française, n'est peut-être pas encore très adapté quant à cette mécanique.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
Alors là, j'avoue que moi, je suis pas un expert de la riposte, mais en tout cas, je pense qu'on devrait s'y pencher plus. Et à mon sens, c'est pas totalement ce qu'on fait, parce qu'on est quand même toujours sur l'idée que cette mécanique procéderait plus d'une espèce d'excroissance de l'islam. On a légiféré. On va le faire là sur l'islamisme, en fait, c'est peut-être pertinent.
Le séparatisme.
Mais oui, le séparatisme islamique, c'est sûrement pertinent, mais c'est pas directement connecté. On le voit dans l'affaire Paty, mais dans d'autres, même l'affaire de Nice, où pareil, c'est un individu isolé avec deux portables qui a peut-être fait ça tout seul, connecté à cette mécanique Internet. Donc, il faut organiser, je pense, une riposte beaucoup plus sévère. Et pour l'instant, on est plus dans le signalement. Vous savez, il y a la plateforme Pharos qui permet de signaler les contenus.
Il y a aussi dans la loi sur le séparatisme une volonté de responsabiliser les plateformes pour leur demander de faire le ménage aussi chez elles.
Oui, mais on sait que, justement, c'est là qu'est le problème. Par exemple, Telegram, mais même WhatsApp ou d'autres, aucun juge d'instruction, aucun service de police ne peut écouter ça, ne peut rentrer dedans. Donc c'est absolument crypté. Et c'est le principe d'ailleurs, puisque, comme je le disais tout à l'heure, Telegram a été créé par des dissidents russes pour se mettre à l'abri en fait des régimes autoritaires. Et donc, je dis, c'est ironique, quelque part, les djihadistes ont exploité des choses faites pour développer la liberté, la liberté au sens démocratique. Et je pense qu'en tout cas, on n'a pas commencé à réfléchir là-dessus. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'unité du contre-terrorisme ou ministériel qui ait au moins mené une réflexion, parce qu'on n'est pas, je pense, totalement conscient encore que c'est comme ça que ça marche, quoi, que c'est ça leur arme principale maintenant qu'on les a écrasés militairement.
Bien, merci Thierry Lévesque. Alors, mais je précise que, je vous en prie, que le premier épisode de cette série donc s'intitule Abdel Community Manager français de l'État islamique, et on peut consulter votre article sur le site Les Jours.
Donc, il y a 158 autres séries, donc c'est le moment d'y aller voir.
Voilà.
À partir de 18h, on est chez soi, alors.
Vous aurez fait votre pub, c'est bien.
Exactement.
Alors, on précise quand même que Les Jours, ça fonctionne par abonnement. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Philippe Duclos et Serge Viguier. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.